Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneau.
Et nous sommes là en direct de Roland-Garros sur cette allée centrale, sur le stand Europe 1 avec Gilles Martin-Chauffier. Bonsoir. Éditorialiste à Paris Match, bonsoir à Jacques Sorey, du service Pierre, politique d'Europe 1, bonsoir à Emmanuel Soufi,
bonsoir Pierre,
du service politique du journal du dimanche. On va parler bien sûr de cette semaine politique qui une fois de plus a été haute en couleurs. C'est un peu comme ici, on se renvoie la balle au tennis, on s'est beaucoup renvoyé la balle, il faut dire, dans le monde politique cette dernière semaine, en commençant bien sûr par le gouvernement suisse. C'est pratiquement un roman feuilleton avec Emmanuel Borne qui donc ce matin a réuni tous les ministres à Matignon. 8h30 ce matin, c'est ça, Jacques Sorey?
Oui, Elisabeth Borne, Elisabeth.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Emmanuel. Vous avez mélangé le président
Emmanuel,
et la première ministre.
Emmanuel, voilà, ça commence bien. Elisabeth Borne, exactement. 8h30 ce matin, Matignon, fallait pas être en retard.
Fallait pas être en retard, et ce qui était assez curieux, en tout cas, on peut dire, c'était un peu un conseil des ministres bis, finalement, ce matin. Le premier a eu lieu lundi, au tout début de la semaine. Finalement, il y a clôture cette semaine par cette séquence. Et il y a juste eu, par exemple, ce qu'on appelle un tour image dans notre jargon. C'est-à-dire, juste quelques images. Au début, aucun journaliste accrédité dans la cour de Matignon, alors que tous les ministres étaient conviés ce matin à Matignon, ce qui est quand même assez surprenant.
On a peur, qu'est-ce qui se passe? C'est de la crainte, c'est de l'inquiétude?
Vous savez, il y a une polémique qui alimente un peu.
On va y venir.
Damien Abad, le ministre, et on sent qu'il y a une volonté un peu de faire attention à ce qu'on dit, de maîtriser la communication. On ne sait pas trop où on va. On a peur des questions parfois un peu embarrassantes, en tout cas cette affaire.
Là, si vous êtes 30 journalistes à débarquer dans la cour de Matignon, c'est Damien Abad, et puis là, bonjour.
Voilà, bon, en tout cas, ce matin, tous les journalistes étaient sur le trottoir en face de Matignon, et la première ministre a pris la parole, juste devant une caméra et sans prendre de questions.
Alors justement, la première ministre a pris la parole pour désigner la feuille de route avec ses trois urgences. On va l'écouter.
Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français. La première de ces urgences, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième urgence, c'est la santé. Nous devons répondre à très court terme aux défis du manque de personnel dans les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux. La troisième urgence, c'est le climat. J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre. Rapidité, efficacité et résultat.
Emmanuel Soufi, il y a un climat là qui est quand même lancé, une sorte d'ambiance. Attention, c'est Madame Borne. Faut pas moufter, j'ai l'impression.
Non, faut pas exagérer. Elle peut avoir un ton maîtresse d'école, mais elle l'est pas forcément. Après, voilà, c'est compliqué pour elle. Elle arrive, elle est fraîchement nommée. Tout le monde salue en fait le fait qu'une deuxième femme accède à Matignon. Et paf, hein, si je puis dire, la polémique Damien Abad enfle et vient empoisonner en fait son début à la tête du gouvernement. Donc il faut qu'elle ramène ça sur le fond de la politique. Donc avec ses trois priorités. Et notamment le pouvoir d'achat et ce texte qu'on attend, enfin que les Français attendent et à l'issue des élections législatives.
Gilles Martin-Chauffier, c'est encore très tôt pour dire ce qui va se passer. On est vraiment aux prémices du gouvernement.
C'est surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'elle ne dit rien. Elle dit je donne des feuilles de route aux ministres. À des ministres qui connaissent les feuilles de route 100 fois mieux qu'elle. Elle ne va pas dire à Bruno Le Maire ce qu'il doit faire, elle ne va pas dire à Gérard Darmanin ce qu'il doit faire. Elle est là, elle a l'air de. On nous dit, on la présente comme la super techno, et on ne lui donne pas les moyens d'agir. Parce qu'en fait, elle dit, je donnais trois priorités qui sont le pouvoir d'achat, la santé, le climat. Bon, on s'est fait les mêmes priorités depuis 2 ans, on nous parle sans arrêt de ça. Et en plus, dans le numéro de match cette semaine, on a fait un truc sur la santé. La santé, oui. C'est très facile.
Avec en couverture, effectivement.
Oui, il faut augmenter les salaires. On montre des médecins qui ont des vies de bagnards, véritablement, qui gagnent 3500 euros net par mois. Et des infirmières qui ont des heures ahurissantes qui sont à 2000. Donc, on comprend très bien, les solutions, elles sont là. Donc, cette pauvre Elisabeth Borne, d'une certaine manière, elle fait de la présence, mais elle a pas d'argument.
C'est du marketing médiatique?
Non, je n'irai pas jusque-là. Elle fait son boulot, elle est première ministre, elle assume. Mais je veux dire, elle n'a rien à dire pour l'instant.
Il y a l'avocate d'Elisabeth Borne.
Je vais faire traiter de macroniste, mais ce n'est pas du tout ça.
Emmanuel Soufi,
voilà,
du JDD.
Il y a un côté très impatient, mais voilà, Elisabeth Borne ne fait pas forcément de la politique, oui. de de chicanerie ou voilà, et elle aime bien ramener, c'est une femme de dossier qui aime ramener ça, voilà. Et le fait est que on est vendredi, qu'elle est arrivée il y a très très peu de temps, et que pour le moment, voilà, les feuilles de route, faut bien qu'il y ait des distribués. Alors certes, il y a Bruno Le Maire qui était là avant, Darmanin également, mais vous avez quand même voilà, ces deux ministres délégués à la transition écologique et à la transition énergétique qui pour le coup n'étaient des postes qui n'existaient pas sous le précédent quinquennat, et il faut bien qu'on sache un petit peu dans quel sens est-ce qu'ils vont aller.
Alors, venons-en à cette polémique, parce que je vois que vous brûlez d'impatience d'en parler. L'intéressé Damien Abad est toujours au gouvernement, et en début de semaine, à la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, le ministre des Solidarités a réuni la presse et a pris la parole.
Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas.
Alors, il pose la question et il apporte la réponse. Je ne le crois pas. Il reste prudent, mais ça veut quand même dire qu'il reste en place, Jacques Serey.
Oui, il reste en place. Et la ligne, pour l'instant, s'il y en a une, parce qu'elle est quand même relativement floue au sein de l'exécutif, la ligne, c'est tant qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte, il n'y a pas de raison qu'il quitte son poste. La question maintenant, c'est jusqu'à quand cette ligne peut tenir. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte, mais si demain il y a d'autres témoignages et qu'il n'y a toujours pas d'enquête, voilà, ça peut commencer à devenir assez lourd pour le gouvernement Borne.
Il n'empêche que même à ce stade, certains observateurs ont nommé Gérald Darmanin, qui était dans une situation pas similaire, mais en tout cas proche, il y a quelques temps.
Et contrairement à Gérald Darmanin, Damien Abad, il n'a pas un poids politique véritablement aujourd'hui dans le gouvernement. Il a pas de soutien, il a plus...
Petit ministre, donc moins grave ?
C'est pas que c'est moins grave, mais il a besoin d'avoir un poids aussi pour exister, pour avoir des alliés. Et aujourd'hui, Damien Abad, c'est pas un homme seul. Il a quitté ses anciens amis DLR. Aujourd'hui, il se retrouve dans une nouvelle équipe, mais c'est pas encore...
C'est un peu comme quand on arrive en classe, et quand on est petit, on connaît personne. Et
on vient de déménager, de c'est un peu difficile. Ouais. Voilà. Et c'est un peu la situation de Damien Abad aujourd'hui.
Ouais. Emmanuel Sophie du JDD.
Oui, alors moi, je trouve l'erreur, c'est pas tant de le laisser que de l'avoir nommé. C'est-à-dire qu'on... Visiblement, il y avait des sous-entendus, des bruits de couloir, même si les républicains aujourd'hui ils disent « Oh, mais nous, on ne savait pas vraiment ». Il n'empêche que quand même, on en avait entendu parler il y a quelques années, on l'avait convoqué. Bon, ses propos nous avaient rassurés.
En Mediapart, c'est quand même quelques témoignages, et notamment celui d'Aurélie Pradier, qui le coince dans un couloir en disant « Attends, maintenant tu m'expliques ».
Tout à fait, voilà. Ouais, maintenant, il faut un peu se calmer, quoi. Aurélien Pradier, c'est ce qu'il affirme. Donc, sachant tout cela, c'est un peu problématique aujourd'hui pour le gouvernement, enfin pour Emmanuel Macron, qui faisait de cette prise Abad dans le camp LR une prise de guerre, de dire bon hop, je le démets de ses fonctions, alors qu'en fait il savait sans doute qu'il y avait ces rumeurs là et qu'on l'a quand même nommé. C'est là ce qui est problématique, c'est d'avoir fait ce casting là sans doute un peu en connaissance de cause, en se disant peut-être ça va se dégonfler, ou peut-être même qu'il perdra sa circonscription. Et comme la règle établie par l'Élysée, c'est qu'en cas de défaite aux législatives, vous quittez le gouvernement, peut-être qu'ils font ce pari de la défaite pour Damien Abad pour pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets.
Gilles Martin Chauffier pour Paris Match. Ce qu'il y a d'assez terrible pour ce gouvernement, c'est qu'à peine formé, il y a cette polémique et on ne parle que de ça.
D'abord, il faudrait quand même me dire... Damien Abad, une prise de guerre pour Emmanuel Macron, calmons-nous.
Vous êtes moqueur.
Petite
prise de guerre qui a exaspéré LR, mais enfin la France
chef
entière.
C'était quand même le chef des députés LR.
C'était pas une des stars de la politique française, c'est pas une grosse prise de guerre. En revanche, ce qui est assez injuste, quand vous dites qu'il n'a pas de poids politique, il ne va pas pouvoir se défendre. La chance qu'il a, d'une certaine manière, dans son malheur et dans le malheur des jeunes femmes qui l'ont croisé, c'est que son... Il y a une espèce, il est symbolique d'une époque, de notre époque, Damien Abad. On en est à la concurrence pénitentielle. Qui souffre le plus? Est-ce que c'est les handicapés? Parce que c'est une force énorme. Quand la jeune femme, la dame qui s'occupe de lui témoigne, elle dit, mais il peut rien faire, il peut pas violer, il peut pas porter une femme, il peut pas la déshabiller.
Il l'a dit lui-même,
Et on se dit en même temps, mais le soir même où il est nommé, immédiatement, il y a une espèce de rush de femmes qui l'accusent. On se calme, on nous tous. On a envie de dire, la société devient hystérique. Et je trouve que Damien Abad, de ce côté-là, et je ne sais pas du tout, et peut-être qu'il est coupable, et puis à ce moment-là, il payera, etc. Mais je trouve qu'on est d'une violence et d'une brutalité qui est ahurissante dans cette affaire.
Emmanuel,
quand vous dites hystérique, c'est par rapport à quoi? Un procès en transparence, en exemplarité?
Une mise en culpabilité évidente, alors même qu'on ne sait pas grand-chose du dossier.
Oui, enfin, il y a deux plaintes qui ont été quand même déposées, oui, plaintes, certes classées sans suite, parce qu'on sait très bien que les preuves à établir dans ce genre de situation sont extrêmement difficiles. C'est parole contre parole. Maintenant, quand vous êtes ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Grand Âge, donc c'est un portefeuille extrêmement social, c'est un dossier qui va, je pense, le poursuivre pendant quelques mois, voire quelques années, s'il reste toujours au gouvernement. Donc, mais là, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train de directement de mettre en doute la parole de ces deux victimes qui se sont confiées dans Mediapart.
De toutes les victimes, pas de ces deux-là, de toutes les.
Et moi, je ne me place pas systématiquement du côté des victimes, mais je ne me place pas non plus systématiquement du côté des présumés.
Je n'innocente pas, d'accord.
C'est très, très difficile. On marche sur des œufs, nous, les médias, quand on parle de cette affaire. C'est extrêmement difficile. Jacques Serret, justement à propos de médias et côté court, j'allais dire côté court de Matignon, de l'Élysée, salle des quatre colonnes, l'Assemblée. C'est quoi Radio Moquette concernant Damien Abad? C'est quoi les bruits de couloir? Qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on est prudent? Est-ce qu'on n'est pas prudent? Qu'est-ce qui ressort de cette histoire?
Côté LR, on a plutôt tendance à dire on savait, oui, voilà.
Et du coup, on est embêté. Côté LR, on est très, très embarrassé.
Ils l'ont nommé président du groupe. C'est incroyable de venir nous dire maintenant. Voilà. On savait, on l'a mis en garde. Et il le nomme président du groupe alors que personne en France ne le connaissait. LR a beau yeux de dire maintenant.
C'est
vraiment un coup de poignard dans le dos de ce pauvre Abad qui n'avait pas besoin de ça en plus.
Ça, c'est Gilles Martin Chauffier qui vient de parler de Paris Match. Jacques Serret de Europe
1. On n'est pas surpris. Et de l'autre côté, côté LREM, côté marcheur, c'est l'embarras, tout simplement. On sait pas quoi faire de ce nouvel arrivant dans son équipe. À la fois, on n'est pas dans la défensive.
C'est le cadeau empoisonné.
C'est le cadeau empoisonné. En même temps,
c'est le cadeau empoisonné pour Damien Abad lui-même aussi de se retrouver. Voilà.
Totalement. Donc aujourd'hui, la seule solution pour Damien Abad, c'est plutôt d'être élu et très bien élu aux législatives. C'est un peu sa seule porte de sortie aujourd'hui.
Est-ce qu'on comprend pourquoi Damien Abad ne prend pas la décision de démissionner lui-même? Parce que ça le rendrait coupable directement?
Évidemment, c'est un aveu. Vraiment? Sais pas si jamais ça arrive à quiconque dans cette pièce, quitter ou alors c'est reconnaître une part de responsabilité,
aussi
une part de culpabilité.
Est-ce que c'est aussi automatique? Est-ce que c'est, attendez, moi je suis un homme d'honneur, je vous dis que je ne suis pas coupable, mais je démissionne parce que je veux éviter toute polémique?
Mais cela, ça engage la loyauté que vous pouvez avoir vis-à-vis du président, de la première ministre qui vous nomme. Estimez qu'aujourd'hui, ça entache l'action du gouvernement. Et donc là, par devoir de loyauté, vous vous dites, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui lui resterait? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui lui resterait? Aujourd'hui, c'est sa carrière politique qui est menacée.
Ah, ça y est, je sens qu'on va se foutre de ma gueule. Gilles Martin Chauffier.
Pierre de Villeneuve, avec particulier.
On
n'est plus au 18e siècle, Pierre. S'il démissionne, évidemment, c'est comme un aveu de culpabilité. Alors qu'en plus, il vient d'expliquer un homme innocent ne démissionne pas. Donc il ne va pas démissionner. C'est pas... Donc là, il met le parti du président dans une situation de blocage parce que c'est lui qui empêche la situation d'évoluer. Mais objectivement, franchement, l'époque ne le comprendrait pas. Cette jurisprudence Balladur, elle est absurde d'une certaine manière parce que finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés de démissionner pour la plupart des mises en examen qui ont eu lieu n'ont débouché sur rien. Je ne parle pas des affaires sexuelles qui sont très embarrassantes et très graves parce que c'est vraiment des agressions sur des femmes. Mais la plupart des accusations qui ont eu lieu, des affaires financières, n'ont jamais débouché sur rien. Ils ont toujours été nettoyés. Et les ministres avaient démissionné. Strauss-Kahn avait été blanchi et les autres, etc.
Jacques Serret, on a parlé de LREM, de l'ambiance chez les LR. Côté opposition, à la fois chez NUP, ORN, est-ce qu'on sort le bazooka et on se dit tiens c'est le moment ou jamais ou est-ce qu'on est justement assez prudent?
On est même très prudent et on sort pas le bazooka, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques jours c'est une autre affaire qui a éclaté du côté des insoumis, celle de Taha Bouafs, et donc du coup attaquer Abad, ce serait relancer la polémique Bouafs qui elle s'est éteinte il y a une dizaine de jours maintenant, donc finalement c'est plutôt silence radio alors qu'au final Jean-Luc Mélenchon se revendique comme le premier opposant d'Emmanuel Macron, mais sur cette affaire là ils montent pas du tout au front.
Et OPS, dissidents, etc. On les entend pas beaucoup d'ailleurs sur cette affaire-là.
Très très peu.
Mais vous remarquerez quand même que même si on en est encore une fois, et je le disais tout à l'heure en début d'émission, on en est aux prémices du gouvernement Borne, on est aux prémices. Et Emmanuel, vous le disiez, après tout, on a une feuille de route, on ne sait pas où on va jusqu'à présent. on ne parle que de ça. Ça a une emprise, j'allais dire, médiatique et politique qui dépasse l'entendement.
Ouais, et puis c'est ennuyeux. Enfin, souvenez-vous, le président l'a à nouveau redit. Ce deuxième quinquennat, la priorité, c'est l'égalité femmes-hommes. Et ça, franchement, quand vous assistez au défilé, parce que là, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies à Paris pour protester contre le maintien au gouvernement de Damien Abad, franchement, ça va les poursuivre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura un texte ou une mesure brandie en faveur des femmes, on va rétorquer à la Première ministre. Mais regardez, vous avez Gérald Darmanin qui est toujours au gouvernement et Damien Abad.
Et ben voilà, l'égalité femmes-hommes, vous faites bien de le dire, puisque demain, justement à 18h15, notre invitée sera Isabelle Rome, l'entrante au gouvernement, et qui s'occupe parfaitement, justement, plutôt que parfaitement, parce que je ne sais pas pour l'instant, on n'a encore aucun bilan sur le sujet. En tout cas, elle nous donnera sa feuille de route à elle, la ministre de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, qui sera là demain. Nous, on se retrouve dans un petit instant. On continue de parler des événements politiques de cette semaine, notamment cette fuite sur éventuellement des petits excès de vitesse qui seront, j'allais dire, absous de points de permis de conduire. À tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
De retour ici dans l'allée centrale de Roland-Garros pour évoquer la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match avec Gilles Martin-Chauffier, rédacteur en chef à Paris Match, Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Emmanuel Soufi du service politique du journal du dimanche. L'autre sujet d'actualité, c'est dans la série cadeau de Noël avant l'heure. Attention, j'ai pas dit cadeau électoral, c'est pas mon rôle. C'est cette proposition de Gérald Darmanin qui a fuité et qui constituerait en ne plus enlever de points de permis de conduire à ceux qui font de petits excès de vitesse, en l'occurrence ceux qui font moins de 5 km/h de excès de vitesse. Marine Le Pen préfère en rire. On va l'écouter, la présidente du RN.
Vous noterez que toutes les annonces sont faites en général dans les 15 jours qui précèdent l'élection. Donc ça n'est pas les excès de vitesse de moins de 5 km/h qu'il faudrait supprimer du retrait de points, c'est évidemment ceux de moins de 20 km/h, parce que c'est ce qu'on appelle des petits excès de vitesse. Moins de 5 km/h, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un tout petit cadeau minuscule. Hein. C'est un cadeau, il faut une loupe quand même pour le regarder.
Petit cadeau minuscule, dit Marine Le Pen. Déjà, est-ce qu'on est sûr de cette mesure? On sait si c'est acté, c'est pas acté.
C'est en réflexion.
C'est une fuite. Jacques Serret.
Avancé par le ministère de l'Intérieur. Voilà, à mon avis, je pense qu'il...
On a l'habitude quand même, quand il y a des réflexions qui fuitent, que généralement, ça aboutit sur quelque chose. Non,
oui, alors après, est-ce que ça fera l'unanimité au sein du gouvernement? Ces sujets-là sont... C'est assez clivant généralement, en tout cas Gérald Darmanin a cette volonté, c'est quelque chose qui... C'est une fuite, est-ce qu'on peut parler de fuite volontaire? Très certainement, ça sort jamais par hasard. Voilà, après oui, on est à 15 jours des législatives, ça mange pas de pain, entre guillemets. Après, il faut savoir que potentiellement...
Ça peut en manger, justement.
Ça peut en manger, mais après, ce qui est peu évoqué, c'est qu'il y aurait potentiellement une contrepartie à cette mesure. C'est, attention, les petits excès de vitesse, moins de 5 km/h, ok, ça passe sous le tapis. En revanche, vous savez, quand vous êtes flashé un radar automatique et que vous pouvez mettre que finalement c'est votre grand-mère qui circule à votre place, vous pouvez mettre le permis de conduire de votre grand-mère. Là, ce serait plus possible, à partir du moment où le véhicule est immatriculé à votre nom. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, et là c'est le en même temps qui revient, c'est assouplissement d'un côté et durcissement de l'autre. Voilà.
Sachant que 5 km/h, c'est déjà la marge d'erreur, je crois, sur les radars. Donc, si vous êtes chopé à 54, ou enfin, plutôt à 135 ou à 134, généralement, il y a une marge d'erreur.
Ouais, mais vous l'avez quand même, le
Emmanuel Soufi. Comment ?
C'est-à-dire, c'est la marge d'erreur, mais mine de rien, ça ne pardonne pas.
Je ne suis pas très renseigné, moi je roule toujours, mon côté, vous savez.
Mais si jamais vous avez
mon côté Helvète, je roule à 129 quand c'est 130.
Voilà, si vous êtes à 134 sur l'autoroute ou à 85 sur une départementale limitée à 80, ça ne pardonne pas. Vous avez quand même et l'amende et le retrait de points.
Ça sent le vécu Emmanuel Soufi du...
Non, pas personnellement, parce que je déteste conduire, donc voilà.
Qu'est-ce que... Mais vous pouvez être à côté et témoin de, justement, de, comment dirais-je, d'excès de vitesse. Comment est-ce que Marine Le Pen, là, c'est, elle fait son boulot d'opposante, on est à 15 jours des législatives.
Sauf qu'il y a une chose...
Martin Chauffier, Paris.
Elle a raison de dire, c'est toujours à la veille des élections qu'il y a ce genre de... Ils appellent ça une réflexion, ils réfléchissent à une éventuelle... Ils réfléchissent beaucoup en ce moment, ils réfléchissent à diminuer ces 5 km/h, puis ils réfléchissent aussi à supprimer la redevance. Ils réfléchissent à faire des tas de petits cadeaux. Alors, est-ce qu'ils feront tous ces petits cadeaux une fois après la réflexion? On n'en sait rien. Je trouve, moi, que objectivement sur les 5 km/h, franchement, oui, je pense que si on supprime, à la limite, c'est pas 5 km/h, je trouve que ça devrait être la norme. En vrai, si vous êtes à 5 km/h au-dessus, c'est pas grave. En revanche, là où je trouve que ce qui est parce que c'est pas ça qui est vraiment dangereux, c'est pas si vous êtes à 75 au lieu de 70. Ce que je trouve très dangereux, ce que je trouve menaçant quand je vois dans Paris comment ça se passe, c'est les gens qui sont avec leur portable. Alors ça, les gens sont tout le temps en train de téléphoner ou de tapoter quand ils conduisent. Alors ça, je trouve ça extraordinaire.
La semaine
dangereux.
Politique est en train de devenir la semaine de la sécurité routière.
Oui, je trouve que là, ils devraient dire on est sévère. Mais bon, là, c'est le petit cadeau, c'est vraiment elle a raison, Marine Le Pen, c'est vraiment le gadget électoral, hein, franchement.
Oui, mais c'est un gadget pour une certaine Emmanuel partie Sophie de la population, Gidé. Quand même, qui a son importance, en fait. C'est cette même population qui était contre le passage aux 80 km/h, hein, donc beaucoup de personnes qui sont des gros rouleurs. Hein. D'ailleurs, il y aura aussi un cadeau, entre guillemets, pour les gros rouleurs dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Donc, tous ces gens qui roulent, qui sont obligés de prendre la voiture et qui parfois dépassent sans s'en rendre compte vraiment de quelques kilomètres heure et qui se font attraper par le radar et qui perdent un point. Donc pour moi c'est aussi une main tendue en direction de certaines catégories de la population. Il faut savoir quand même que l'amende perdurera, donc c'est juste éviter de perdre un point et de devoir repasser ensuite son permis à points, ce qui est assez coûteux quand même, hein, quand il faut récupérer des points pour l'avoir en intégralité. Et il faut savoir aussi que c'est peut-être une mesure d'alignement par rapport à nos voisins. On est un des rares pays à avoir un permis à points. Beaucoup de nos voisins n'en ont pas. Donc est-ce que c'est la réflexion du gouvernement aussi d'avoir une espèce d'uniformisation au niveau européen? Peut-être
qu'ils l'ont instauré. J'ai l'impression qu'Emmanuel est en plein rêve. Là, elle voudrait qu'on supprime le permis à points pour rouler très très vite et payer des amendes.
C'est très politique, tous ces sujets de sécurité routière et de permis. Je peux prendre la campagne, Éric Zemmour, il vantait le fait de supprimer le permis à points, justement. Marine Le Pen, qui parle.
Les gilets jaunes, c'était une question de voiture. Oui. Et de camion,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement.
C'est des sujets extrêmement sensibles, on le sait. Oui,
voilà, mais là, ce qu'on a du mal à saisir, c'est la cohérence dans tout ça. En fait, c'est ce même gouvernement qui a fait baisser la limitation de 90 à 80 km/h sur les routes départementales qui, aujourd'hui, nous dit 5 km/h, plus ou moins, c'est pas si grave. On a du mal.
Sachant que le 80, on sait que l'artisan du 80, mais c'était Édouard Philippe, et il n'est plus là. Donc,
et au grand mécontentement d'Emmanuel Macron, avait-on dit à l'époque.
Oui,
qui paraît-il était... Philippe l'avait imposé.
Ouais. C'est fort ça, d'imposer quand même quelque chose à Emmanuel Macron et qu'un Premier ministre puisse imposer ça à un président de la République. Là, en l'occurrence, avec Elisabeth Borne. C'est parce qu'il y a Emmanuel qui est là que ça me perturbe. Donc, je vois Emmanuel et je l'appelle Elisabeth, ou le contraire. Il y a une polémique, en tout cas, qui a été... une autre polémique dont on parle encore, puisque ça ne date pas de cette semaine, c'est la question du burkini. Question clivante, tranchante. L'ancienne ministre des Droits des Femmes de François Hollande n'y va pas de main morte et prêtez l'oreille. C'est bien de crétin qu'elle traite Éric Piolle. C'était le 18 mai dernier, au cas de vérité sur France 2.
Quel crétin. À tout
vous y allez comme ça.
Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien, cette fois-ci, ça ne vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Alors, sur le timing, je suis sidérée en termes d'opportunité.
Et ça dessert la campagne de la gauche ?
Mais ça pollue la campagne incontestablement. Et puis sur le fond, il a tort.
Sentiment différent pour le président de l'Association des maires de France. Finalement, c'est pas si grave, dit en substance ce matin, au même cas de vérité chez Caroline Roux, David Lisnard. Si chacun est responsable, on l'écoute.
Dans une piscine, on ne peut pas interdire à des hommes ou à d'autres personnes d'avoir des tenues intégrales pour des raisons d'hygiène et de sécurité, et autoriser pour des raisons religieuses, donc séparatistes, et c'est en cela que la décision du tribunal administratif est intéressante. Il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que cette revendication au burkini, elle est très marginale quantitativement, mais elle est très intense parce qu'elle résulte d'associations qui sont des outils de propagande, et donc il faut être clair et net face à cela.
Voilà, donc la question du burkini qui est encore là, et on a du mal à s'en dépatouiller. Laurence Rossignol, elle y va très très clairement sur Éric Piolle, elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, Emmanuel Soufi.
Oui, puis vous le signaliez tout à l'heure, hein, Pierre, elle a quand même occupé aussi un ministère des droits des femmes. Hein. Donc c'est logique, elle est dans ce discours féministe, inquiet par rapport à des revendications religieuses. Après, moi j'ai du mal à matérialiser, est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui dans les piscines municipales un sujet burkini? Enfin, je pose pose la question.
David Lisnard, il répond un peu en disant que...
C'est marginal, voilà. C'est marginal, voilà. Comme ça a pu l'être sur les bases de loisirs, Valérie Pécresse l'a interdit sur les bases de loisirs en Ile-de-France il y a quelques années, ou l'année dernière, je ne sais plus. En tous les cas, voilà. Est-ce que entre le discours, les polémiques médiatiques et la réalité sur le terrain, je pense qu'il y a un gros gap, voilà.
Gilles-Martin Chauffier.
Je pense qu'il y a surtout une démarche extrêmement démagogique de la part d'Éric Piolle, qui est un calcul politique. Moi, j'ai pas une foule d'amis musulmanes, mais enfin, mes copines musulmanes, aucune d'entre elles n'a jamais demandé à prendre le burkini pour aller à la piscine. S'il y a des femmes qui veulent se baigner à la mer avec un burkini, ça ne me gêne absolument pas, ça gêne personne d'ailleurs. Dans les piscines, il y a des règles hygiéniques, etc. Et une fois de plus, je trouve qu'on manipule un souhait potentiel de quelques musulmanes qui va faire qu'on va montrer du doigt à la communauté musulmane qui ne demande rien. Et tout ça, c'est un calcul d'Éric Piolle qui se dit, oh là là, j'ai été doublé sur ma gauche au vert, avec Europe Écologie Les Verts, par Sandrine Rousseau. Donc il faut que j'en rajoute pour bien montrer que c'est moi qui incarne l'aile progressiste du parti. Je trouve que c'est de la démagogie, que c'est maladroit, que c'est malvenu, que personne ne s'y attendait, personne ne lui demande, et Emmanuel a totalement raison. Je veux dire, en plus, qui ça concerne? Objectivement, ça concerne quasiment personne. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Aucune de nos copines n'a jamais demandé, on voudrait porter le burkini.
Oui, alors il y a celles qui... Mais faut faire face à la réalité. Il y a celles qui veulent porter le burkini. En l'occurrence, c'est peut-être marginal, mais il y a aussi celle dont le mari ou le compagnon dit tu vas porter le burkini, sinon tu ne sors pas à la piscine.
Vous vous rendez compte, la difficulté, c'est après en fait une femme musulmane qui irait à la piscine en maillot de bain une pièce. Donc en gros, on pourrait aujourd'hui l'accuser, lui dire mais attends, mais pourquoi tu n'as pas mis ton burkini puisqu'il est autorisé? C'est ça aussi que pointe Laurence Rossignol, et ça, je trouve qu'elle a complètement raison, c'est-à-dire que ça devienne un modèle, une sorte d'uniforme, non pas obligatoire, mais avec une pression sociale, religieuse, pour le mettre, puisqu'il sera autorisé.
En plus, l'argument de Piolle que vous développez là, il est quand même très, très dangereux, parce que d'une certaine manière, ça revient à dire, si vous portez le burkini, ça vous permet d'aller à la piscine, et c'est bien. Mais alors, à ce moment-là, on va qu'à dire, mais les talibans, c'est formidable de permettre la burqa. Parce que si vous ne portez pas la burqa, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Mais si vous mettez la burqa, vous avez le droit d'aller dans la rue. Alors donc, la burqa est un synonyme de progrès social.
Vous voulez dire que c'est une porte ouverte à d'autres choses.
Le burkini, oui. C'est pas un signe de progrès, c'est un signe de soumission à Dieu, à l'homme, etc. Mais enfin, nous expliquer que c'est un progrès. Et en plus, quand Piolle... il pousse le vice loin, il dit. Oh, puis en plus, c'est pas grave parce que dans la même piscine, il pourrait y avoir des filles au sein nu. Mais c'est comme si on dit, je vais mettre dans la même cage des petits oiseaux, des petits chats et tout va très bien se passer. Non, il se moque du monde. Enfin, pour moi, le mec
cherche la cohérence. Clairement, la cohérence.
Totalement incohérent.
Ouais. Jacques Serret.
Oui, la cohérence, on la trouve pas. Quand Éric Piolle, Laïcard. Voilà, il se revendique comme tel, finalement, va défendre les islamistes. Enfin, on ne voit pas où ils vont en venir, si ce n'est de vouloir exister finalement dans cette période. Il n'est pas parvenu à s'imposer chez les Verts. Aujourd'hui, voilà, il y a cette...
En tout cas, s'il veut exister, il a trouvé le sujet par lequel il existe, parce qu'on ne cite son nom. Et c'est le fameux qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, en l'occurrence, on en parle.
Un, c'est clientéliste, et deux, ça lui permet d'exister. Finalement, voilà les deux avantages pour lui de cette polémique.
Éternellement la vieille
Martin Chauffier.
C'est réamorcer éternellement la vieille bombe qui a explosé 1000 fois, du voile, du burkini, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est de la...
Et ça parasite la campagne, parce qu'en attendant, on n'a pas les vrais enjeux. Est-ce qu'on arrive quand même à parler des vrais enjeux?
Je suis complètement d'accord avec Gilles.
Emmanuel
Soufflet. Pour moi, personnellement, c'est un non-sujet.
Ouais,
c'est un sujet dont on ne devrait même pas débattre ce soir.
Eh ben voilà, alors on passe à autre chose. On passe à autre chose, on va parler des dissidents. Les dissidents quand même, alors j'ai un exemple parce que c'est un des derniers. À Reims, on a une députée sortante qui s'appelle Aïna Curic qui fait campagne dans la deuxième circonscription de la Marne en se revendiquant de la majorité présidentielle. Et dans les faits, elle se maintient en dissidence face à la LR Laure Miller qui, elle, a véritablement obtenu l'investiture. Il y a combien de cas, Jacques Serret, vous m'avez dit tout à l'heure?
Alors j'ai fait le décompte, normalement, si j'ai bien compté, il y en a 87. Il y a 87 candidats aujourd'hui aux législatives qui se réclament d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas été investis par le mouvement Ensemble, à savoir cette grande confédération qui rassemble En Marche, le Modem, Agir et tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Voilà, ils n'ont pas reçu l'investiture, mais ils y vont quand même. Alors parfois, je ne sais pas si c'est jusqu'à mettre la photo d'Emmanuel Macron à côté d'eux, deux. En tout cas, il n'y a pas ce nom majorité présidentielle ou ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est une zone de flou pour les électeurs qui, en tout cas pour ceux qui souhaitent voter pour un candidat macroniste, ils peuvent parfois avoir le choix entre deux candidats.
Mais c'est normal dans une campagne présidentielle, c'est une anomalie, c'est pour donner du piment dans une campagne, se sont délaissés pour compte parce que finalement, il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse en haut à tirer les ficelles d'une marionnette. On est dans quel cas de figure là? C'est assez
tout a été décidé à Paris, c'est un peu ça le problème chez les marcheurs, c'est que ça s'est passé.
L'anomalie a été décidé à Paris.
Bah, tout a été acté à Paris et en haut lieu, puisque chaque investiture a été actée par le chef de l'État en personne. Emmanuel Macron a veillé pendant trois jours.
Les autres partis, parce que je crois qu'il y a aussi pas mal de dissidents socialistes qui.
Oui, mais là, il y a une autre histoire derrière les socialistes.
Oui, mais il y a des parachutages un peu systématiques.
Mais il y a la NUP et puis je ne vais pas vous refaire le feuilleton, mais effectivement, il y a cette grande.
C'est quand même des.
C'est la même cuisine en fait. Vous êtes obligé de respecter des courants avec lesquels vous faites alliance. Et donc, il y a des échanges comme ça, de circonscription en circonscription. Et puis, des députés qui étaient en poste depuis X temps, qui n'ont pas forcément démérité, qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau parce qu'il faut placer un horizon, parce qu'il faut placer plutôt un modem.
J'en reviens à ma question initiale. Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est une bourde? Est-ce que c'est une boulette? Est-ce que c'est...
Ah non, c'est pas forcément des bourdes et des boulettes. Parfois, c'est fait en connaissance de cause. Alors après, c'est fait depuis Paris en espérant que le candidat qui n'est pas investi n'y aille pas puisqu'il est dégoûté de ne pas avoir reçu l'investissement.
On pousse les gens au vice, c'est terrible.
C'est un peu ça, sauf que souvent, ces députés qui sont investis pendant 5 ans, ils ont encore envie de faire 5 ans de plus. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve à ces situations pareilles. Et le cas le plus emblématique, selon moi, de ces députés qui y vont quand même, c'est Stéphane Vojetta, député des Français de l'étranger dans la zone Espagne, Portugal, voilà, ces pays-là.
Avec Manuel Valls.
Et qui se retrouve avec Manuel Valls. C'est-à-dire que ce député était là depuis 5 ans et on lui parachute, entre guillemets, Manuel Valls face à lui qui a lui reçu l'investiture.
Bon, mais écoutez, oui, Gilles Martin.
Quand Mélenchon impose son gendre comme candidat à Villeurbanne, alors qu'il y a un leader légitime et naturel
des femmes d'ailleurs,
légitime des insoumis à Villeurbanne. C'est pas, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est en marche, mais c'est dans tous les partis il y a un peu ça.
Bien, voilà, vive la politique. Et c'est pour ça que vous êtes là pour la commenter. On va se retrouver dans un petit instant après la pause publicitaire et on reviendra sur ce papier que vous signez, mon cher Gilles Martin Chauffier. Pape Diaye, le ministre qui fait polémique, c'est dans Paris Match cette semaine. À tout de suite.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Dernière partie de la semaine politique sur Europe 1, ici à Roland-Garros, face au cours central où s'affrontent Azarenka et Teichmann, avec maintenant un avantage à Azarenka, 5-4 dans le troisième set qui sera décisif. Et déjà un 15-0 au service. On parle d'un autre service. Gagnant ou pas, encore trop pour le savoir, c'est le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, le ministre qui fait polémique. Gilles Martin Chauffier, c'est vous qui signez cet article dans Paris Match. C'est très intéressant parce que on passe en revue le passé que certains observateurs considèrent déjà comme un ADN, comme une carte d'identité qui peut être problématique pour la suite de ses fonctions au gouvernement. Vous faites une comparaison avec son prédécesseur, qui était rattaché à ce qu'on appelle le récit national, peut-être pas forcément... on met en tout cas sous point d'interrogation ce que pourrait faire le nouveau ministre. Et puis il y a cette phrase qui d'ailleurs est reprise, je l'ai surlignée dans le corps du texte, mais vous la reprenez effectivement au début du chapitre. C'est très intéressant. Il est toujours maître de ses émotions, il sait refroidir les conversations brûlantes, c'est un roseau au nerf de chêne. Ça veut dire quoi exactement? Dans la contradiction.
C'est un homme extrêmement calme, c'est un homme très nuancé, c'est quelqu'un qui est, quand il a été nommé, objectivement, la plupart des journalistes ne savaient pas très bien, on n'est pas spécialistes tous de la sociologie indigéniste française, donc on ne savait pas bien qui était Pape Diaye. Il avait simplement une réputation, il avait été nommé directeur du musée de la Porte Dorée, du musée de l'immigration, on savait que c'était un intellectuel, et c'est un intellectuel respecté, car... calme, pondéré, posé dans un univers qui peut être complètement hystérique. C'est-à-dire, on voit bien les intellectuels qui poussent des hurlements dès qu'on aborde ce genre de sujet. Et il est arrivé, on l'a dit, c'est l'anti-Blanquer, c'est-à-dire, c'est le déconstructionniste. En fait, la vérité, c'est que il porte effectivement, c'est un intellectuel qui a un agrégé d'histoire, qui a commencé par faire une étude. sa première thèse sur Dupont de Nemours. Comment Dupont de Nemours s'installe aux États-Unis. Donc, il est parti aux États-Unis faire sa thèse. Et là, il a découvert les Black Studies. Et il est devenu un spécialiste.
Rosa Parks, Martin Luther King, pas que, mais en tout cas les...
Non, les intellectuels et les travaux des intellectuels sur l'esclavage, le poids de l'esclavage, les conséquences de l'esclavage aujourd'hui. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est que Pape Ndiaye, on nous dit, attention, c'est Martin Luther King. Non, pas du tout. Je veux dire, la vérité, c'est Eugène de Rastignac. Il s'est vendu en disant « Je suis l'incarnation de la méritocratie ». Non, il n'est pas l'incarnation de la méritocratie, parce qu'il est l'incarnation de l'élitisme.
Mais vous parlez.
Son père était polytechnicien, son père était directeur du port de
Dakar. Vous parlez de son enfance.
Oui, sa mère était une professeure, il vivait à Bourg-la-Reine, dans une banlieue tout à fait paisible et prospère. Il a été au lycée Lacanal, qui est un des meilleurs lycées de la région parisienne. Il a fait ses études à Henri IV. Aujourd'hui, ses propres enfants sont à l'école alsacienne, qui est quand même le summum du communautarisme bobo. Si on fait du communautarisme, et du communautarisme bobo dans son cas.
Ils s'appellent Rose et Lucien, ses enfants, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de prénom choisi sur...
Oui, non, je veux dire, c'est pas du tout... On nous le présente comme une menace pour la société française. Pas du tout. C'est un professeur qui a des tendances. Évidemment, il a une analyse un peu racialiste de l'histoire. Mais ça, après tout, comment faire le 18e Au XVIIIe siècle, c'est un fait qu'un tiers du budget de la France venait des îles et que les îles, c'était un système esclavagiste. Donc, il y a de quoi réfléchir. Aujourd'hui, c'est un fait que, quand vous naissez noir, c'est un handicap dans des tas de quartiers, etc. Donc, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas un sujet d'étude pour la sociologie. Simplement, quand on nous dit maintenant, attention, c'est l'homme qui va déconstruire la France, non, pas du tout. D'ailleurs, vous verrez que, comme d'habitude, la fonction fait l'homme. Et il est peut-être l'anti-Blanquer, mais Macron lui a donné comme ordre de mission les mêmes ordres qu'à Blanquer, c'est-à-dire réformer le bac, libéraliser l'école, la rémunération au mérite. Il le fera comme vous verrez qu'à mon avis, il va se glisser parfaitement dans l'habit.
Vous complétez Jacques Seret ou vous démentez je pense tout d'un coup, alors Gilles Martin-Chauffier et Jacques Seret et Emmanuel Soufi, avec ce que vous venez de dire à l'instant, à Nicolas Hulot, qui d'une certaine manière s'est glissé aussi dans le portefeuille d'un ministre de l'écologie sous Emmanuel Macron, avec quand même un président qui décide de tout. Je parle sous votre contrôle.
Et en tout cas, oui. Et sur la forme, c'est un peu le même effet de surprise. C'est-à-dire, premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était Nicolas Hulot. C'était la grande annonce, la grosse surprise. Finalement, personne ne l'avait plus ou moins vu venir et arriver pour être nommé dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que personne n'avait vu venir Pape Ndiaye.
Personne.
Jamais cité. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé.
Nos pronostics qu'on avait tous juste avant.
Beaucoup de noms.
On a un quart d'heure de l'annonce.
Mais c'est ça. Jusqu'au début d'après-midi avant l'annonce, le nom de Pape Ndiaye, personne ne l'avait vu venir. Et quand il a commencé à circuler, le premier réflexe des journalistes, c'est d'aller checker sa fiche Wikipédia. Qui est-il? D'où vient-il? En tout cas, au niveau politique, beaucoup ne le connaissaient pas, tout simplement. Donc, en tout cas, oui. Pour le comparer à Nicolas Hulot, c'est l'effet de surprise, en effet. Et après, sera-t-il l'anti-Blanquer ou pas? On verra. En tout cas, parmi ceux qui constituent son cabinet aujourd'hui, on a appris, en tout cas, c'est paru au journal officiel hier, son directeur de cabinet, c'est un proche de Jean-Michel Blanquer.
Ouais. Donc finalement, ça va peut-être... Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, c'était ma question suivante, est-ce qu'il faut, Emmanuel Soufi, un anti-Blanquer? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un anti-Blanquer au ministère de l'Éducation nationale?
C'est une bonne question. On a peut-être plutôt besoin de quelqu'un qui va réconcilier le gouvernement avec les organisations syndicales. Ça a été un peu le souci de Jean-Michel Blanquer.
Ah
ouais, d'enseignants, de directeurs d'établissement. Souvenez-vous, il y a eu quand même des grosses manifestations avant le Covid ou après. On a un peu perdu maintenant dans la temporalité. Mais le fait est que quand même, hein, c'était une première. Hein, toutes les organisations syndicales, y compris les principaux d'éducation, les proviseurs, les directeurs d'établissement qui manifestent tous ensemble pour dénoncer des conditions d'enseignement. Franchement, c'était du jamais vu. Donc, il y a sans doute besoin d'avoir une personnalité, un ministre ou une ministre qui réconcilie en fait qui reprenne le dialogue social de façon plus apaisée que Jean-Michel Blanquer. ministère. Et le fait est que quand Papendaï a été nommé, il y a eu très peu de communiqués, voire pas du tout de syndicats enseignants pour dénoncer son arrivée. Donc c'est déjà un bon point.
Et même en allant les chercher, c'est-à-dire que nous, médias, on les sollicitait à Europe 1, on les a appelés.
Il n'y a pas de critique.
Attendez, on va voir, peut-être pas tout de suite.
Une grande prudence, puis même une forme de satisfaction.
J'ai Roland Garros, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre.
Il y avait même un profond divorce entre...
Il y avait même des compliments de la part de Mélenchon.
Martin Chauffier.
La NUP a fait des compliments. Mélenchon a dit que c'était très bien, que...
Il s'est porté garant d'une certaine manière de ce ministre.
Si le calcul, c'est on calme le jeu du côté de l'éducation nationale, avec Papendaï, c'est effectivement assez habile parce que c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, être tout à fait dans l'esprit de l'époque et d'esprit des syndicats. Ce qui est intéressant en même temps, et c'est là que ces sujets sont intéressants.
Attention à l'usage du en même temps, hein, oui, parce qu'on va croire que.
Ce qui est intéressant, c'est que ça reflète la société française. C'est-à-dire que la société intellectuelle française, il y a eu pendant des années Sartre contre Aron. Ensuite, il y a eu pendant des années Bourdieu contre Gaucher. C'est-à-dire, et maintenant, le grand débat, c'est les universalistes contre les indigénistes. Et là, on avait un ministre qui était universaliste et bingo, on nous met l'incarnation de l'universaliste. C'est assez, on avait Blanquer est universaliste et on nous met le roi des indigénistes. C'est intéressant, ça reflète. C'est un peu la singularité de la société française. C'est une société intellectuelle où on aime bien débattre, où on aime bien argumenter.
D'où votre en même temps de tout à l'heure.
Oui.
Ça n'était pas pour rien. On parlait de Mélenchon à l'instant. Il y a eu une réaction de Mélenchon qui a été très, très rapide, pratiquement, je crois, Jacques, à 10-15 minutes après la nomination du gouvernement. Et,
il est ravi.
Et il est ravi. Alors, il est ravi. En même temps, il mange son chapeau parce que tout le monde s'accorde à dire que, à 15 jours des législatives, ça peut draguer certains, électeurs qui allaient directement à la NUP.
Mais oui, mais c'est aussi un coup politique en nommant ce ministre.
C'est fait pour ça.
C'est aussi fait pour ça. En tout cas, à voir si la vision de Papendiaï s'accorde avec celle d'Emmanuel Macron sur l'éducation. On verra, mais en tout cas, à court terme, c'est un coup politique pour les élections législatives. Emmanuel Macron sait qu'il y a une partie de ses électeurs qui ont un ADN plutôt de gauche, de centre-gauche, qui peuvent parfois hésiter dans des circonscriptions avec des candidats socialistes investis par la fameuse NUPES. Et aujourd'hui, en nommant ce ministre de l'éducation-là, oui, en tout cas, c'est permis de montrer que, et d'autant plus quand on connaît l'électorat des enseignants, qui penche plutôt à gauche, en tout cas pour le dialogue à venir, en nommant ce ministre-là, c'est un signal clair qui est envoyé.
Emmanuel Sophie pour lui.
Après, il est aussi nommé pour appliquer un programme, une politique qui a déjà été un peu dévoilée par le président pendant la campagne, qui est celle de plus d'autonomie des chefs d'établissement pour nommer, recruter des enseignants. Ça, voilà. Le CAPES, on ne sait pas s'il va survivre. Tout un tas de points qui sont quand même extrêmement urticants et difficiles, délicats pour les organisations syndicales. Donc, elles ne sont pas dupes et les enseignants ne sont pas non plus dupes. Il n'y a pas Papendaï et derrière, lui, il est là quand même pour ses marges de manœuvre, comme les autres ministres, hein, pas seulement lui, seront quand même assez limitées, parce que en haut, c'est Emmanuel Macron qui décide, hein, et l'administration.
Et l'administration.
Martin Chauffier.
L'administration, comment Allègre avait appelé le mammouth, qui était une maladroit, oui, qui avait mis le feu au lac, mais enfin, c'est quand même un peu un mammouth. Donc,
j'ai entendu dire usine à gaz aussi. Il n'y a pas un seul.
L'administration centrale de l'éducation nationale, on ne fait pas ce qu'on veut. Le ministre n'arrive pas en disant tiens, on change tel programme, on fait ceci, on fait cela. Tout ça demande des négociations sans fin à l'intérieur même du ministère.
Oui, chaque ministre de l'éducation peut témoigner de ça. Il n'y a pas un seul ministre de l'éducation qui est sorti, j'allais dire, indemne de ça. Expérience.
Les seuls qui vous disent, c'est si on fait rien. Si on fait rien, tout ce
Il y en a eu des noms.
Jacques Lang en nomme un ou deux en disant ils n'ont rien fait.
Ouais, bon, c'est lui qui dit ça.
Oui.
D'accord. Qu'est-ce que je vais. Quand on est sur une annonce telle que celle de Papendiaï, on est dans un combat politique, on est en même temps dans une continuité et une discontinuité du mandat. On met Borne, qui a été une de ses ministres les plus fidèles, qui a déjà occupé trois ministères, celui des transports, celui de l'écologie et celui du travail. Et il a fallu absolument mettre un trublion. C'est pas du tout le bon mot d'ailleurs, trublion. Il a fallu mettre un marqueur dans ce gouvernement pour se dire, non, finalement, ça n'est pas que du Macron d'avant. Alors que j'ai dit que finalement ce quinquennat n'allait pas être un quinquennat de continuité.
Gilles Martin. Je crois qu'Emmanuel Macron, c'est quand même un homme qui fait des coups. D'ailleurs, Elisabeth Borne, une heure avant, enfin 12 heures avant qu'elle soit nommée, elle n'était pas, c'était pas elle qui avait été retenue.
Oui, mais elle tenait la corde quand même depuis.
Elle tenait la corde depuis un moment, mais enfin, et puis elle la tenait pas à d'autres moments. Et on avait dit que c'était Catherine Vautrin qui le ferait, c'est elle qui tenait sérieusement la corde. Et je pense que dans le cas de Papdai, il y a effectivement l'idée de faire un coup, comme il avait fait Hulot. Et c'est une espèce de débauchage intellectuel assez remarquable, parce que c'est vrai que Papdai, c'est une pointure intellectuelle, donc. Je pense qu'il y a plus qu'un calcul, c'est simplement l'idée de réussir quelque chose qui va attirer l'attention.
Il est sur un siège éjectable. On parle souvent de ce gouvernement comme un gouvernement d'intérim et qui sera peut-être ajusté. D'ailleurs, il y a des cases qui manquent après les législatives. Jacques Serret.
Certains ministres, ceux qui se présentent aux élections législatives, en effet, sont sur un siège éjectable, en tout cas pour les zones où il y a potentiellement risque. Oui. La Première ministre aussi se présente. Pour les ministres où Emmanuel Macron ne souhaitait pas qu'il soit sur un siège éjectable, il leur a dit très clairement, par exemple, il l'a dit à Agnès Pannier-Runacher, qu'il ne souhaitait pas qu'elle se présente aux élections législatives parce qu'il comptait pour elle, justement, pour la transition énergétique. Papdai, aujourd'hui, ne l'est pas, tout simplement. Il ne se présente pas aux législatives. Il ne l'a pas débauché pour finalement le virer dans deux mois. Donc, clairement, non.
Voilà, Papdia et le ministre qui fait la polémique à lire dans Paris Match cette semaine. Merci à vous, Gilles Martin-Chauffier. Merci, Jacques Serret d'Europe 1 et Emmanuel Soufi du Journal du Dimanche. Restez avec nous ici, Porte d'Auteuil à Roland-Garros. On revient dans un instant pour le journal de 19h. Ensuite, c'est Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, qui nous rejoint. Et à 19h45, Service Pioline, le résumé des matchs de la journée avec Cédric Pioline, notre consultant, et l'ami Axel May. À tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Et pour la suite des réjouissances, c'est Laurent Jacobelli, le porte-parole du RN, qui est notre invité juste après votre journal. Bonsoir Alexandre Lemaire.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h. Et dans l'actualité, ouverture au Texas de la convention de la NRA, le très puissant lobby des armes américains, 3 jours après la tuerie de l'école d'Uvalde. Nous serons à Houston dans un instant.
Il avait été frappé au couteau devant l'école de ses enfants à Marseille. Ce jeune médecin militaire a succombé à ses blessures 10 jours après son agression. Pour ce week-end de l'Ascension, la galère s'appelle EasyJet. 200 vols annulés à la dernière minute. Des voyageurs piégés à l'aéroport. La compagnie invoque un problème informatique. Et puis l'interview exclusive d'Olivier Giroud ce soir dans Europe 1 Sport. L'attaquant ne figure pas dans la dernière liste de Didier Deschamps. Premier extrait à la fin de ce journal.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le retour du soleil au nord, mais des températures trop fraîches, 2 à 3 degrés en dessous des normales et de fortes chaleurs près de la Méditerranée.
En tout cas, je peux vous dire qu'il fait beau sur le cours central ici à Roland-Garros. Météo complète en fin de journal. Deux jours après la tuerie dans une école au Texas, ce même État accueille le congrès pro-armes de la NRA.
Le plus puissant lobby américain pro-armes, la NRA a choisi de maintenir sa convention annuelle ce week-end, à quelques heures de route seulement de l'école primaire où 19 enfants et 2 enseignantes ont été tués au fusil d'assaut. À Viva Fried, vous êtes à Houston qui accueille cette convention pro-armes et où des Américains se mobilisent contre sa tenue.
Oui, la grosse manifestation doit commencer dans une petite heure, mais en face du centre des congrès où a lieu la convention de la NRA, quelques manifestants sont déjà rassemblés. Ils crient leur colère et leur dégoût.
Shame!
Honte à vous! Ça boit le tour de vos petits-enfants!
On vient d'entendre Mathieu Rery. Il est venu avec un journal qu'il brandit à bout de bras. Sur la page, les photos des 21 victimes du massacre d'Uvalde.
Ça n'a pas de sens que des gens viennent ici, aillent à cette convention en souriant, en riant, alors qu'en face, il y a des personnes qui pleurent la mort de ces enfants, de ces professeurs.
Pour lui, le contrôle des armes, ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une question de survie.
Tant qu'il y a dans les rues des armes à feu comme ces fusils automatiques, personne n'est en sécurité.
Alors de l'autre côté de la rue, on regarde ces manifestants avec moquerie ou indifférence. Wanda Martins a 79 ans, elle n'a jamais raté un congrès de la NRA et personne ne peut lui gâcher sa joie d'être ici.
C'est un rassemblement d'Américains patriotiques et loyaux. Ce n'est pas eux qui vont causer des problèmes.
Le grand moment de la journée, ce sera tout à l'heure, l'intervention de Donald Trump. La convention, elle, se termine dimanche.
À Viva Fried, envoyé spécial d'Europe 1 à Houston. Et ce soir, le mea culpa de la police du Texas. Nous avons pris une mauvaise décision en n'entrant pas rapidement dans l'école d'Uvalde, reconnaît le directeur de la sécurité publique.
Et nous sommes maintenant à Marseille, Alexandre. Le père père de famille attaqué au couteau devant une école a succombé à ses blessures.
Oui, ce médecin militaire avait été poignardé à une dizaine de reprises le 10 mai dernier devant l'école de ses enfants. Âgé de 40 ans, il était marié et père de 3 enfants, Stéphane Burgat.
Moyenne question demeure, pourquoi le meurtrier a-t-il ciblé ce médecin militaire de l'hôpital Laveyran ? L'enquête reste parsemée de zones d'ombre. Comment expliquer les raisons de cette attaque qualifiée de très violente avec plusieurs coups de couteau, dont un porté au niveau du cœur ? Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire. Le suspect, selon des témoignages, aurait évoqué Dieu ou encore le diable alors qu'il était maîtrisé sur place par des témoins de la scène. Des propos incohérents d'un homme qui était en arrêt maladie au moment des faits pour des motifs d'ordre psychiatrique, selon des éléments recueillis avec le service police-justice d'Europe 1. En perquisition, aucun élément n'est venu nourrir les pistes d'une possible radicalisation religieuse. Un psychiatre l'a évalué au moment de sa garde à vue, mais l'homme est bel et bien placé aujourd'hui en détention provisoire, initialement mis en examen pour tentative de meurtre, motif que le parquet de Marseille s'apprête donc à requalifier en raison du décès du père de famille.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Une réaction politique sur Twitter. Le député LR Éric Ciotti plaide pour que le motif terroriste soit retenu dans cette affaire.
La guerre est déclarée entre le RN et Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. La bataille se joue aujourd'hui dans le Var.
Oui, il y a 2 semaines des législatives. Jordan Bardella, président du RN, est allé soutenir le candidat de son parti. Ce n'est pas un hasard dans la circonscription où se présente Éric Zemmour. Le Var est une terre disputée à l'extrême droite. Marine Le Pen y a fait 57% au second tour de la présidentielle. Alors, pas question pour le RN de l'abandonner à Reconquête. Victor Chabert, vous avez suivi aujourd'hui Jordan Bardella et Éric Zemmour.
Oui, ce matin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, déambulait sur le marché de la belle station balnéaire de Sainte-Maxime dans le golfe de Saint-Tropez, accompagné de son candidat Philippe Lothiaux, qui est notamment, vous l'avez dit, face à Éric Zemmour. Et il n'a pas hésité à accuser le fondateur de Reconquête de créer de la division dans une circonscription où le RN fait de gros scores.
C'est un peu contradictoire d'ailleurs de réclamer l'union, de réclamer l'aide du Rassemblement National pour créer une coalition électorale et passer son temps à attaquer Marine Le Pen. Et beaucoup de nos électeurs ne comprennent pas qu'en même temps Éric Zemmour passe son temps à réclamer l'union des droites, le Rassemblement, et en même temps expliquer qu'on est un parti de gauche, qu'on est nul, qu'on est des amateurs. C'est extrêmement contradictoire, donc je le regrette. Je respecte Éric Zemmour, mais je regrette qu'il vienne participer d'une forme de division, parce que la vérité c'est que s'il n'y a pas de candidat Reconquête dans beaucoup de circonscriptions, nos candidats arrivent en tête dès le premier tour.
Cette visite de Jordan Bardella fait bondir les cadres de Reconquête. Et cet après-midi, Éric Zemmour, en campagne lui aussi, mais dans l'arrière-pays varois, a répondu à Jordan Bardella en exclusivité au micro d'Europe 1.
Je remarque que Jordan Bardella, en tant que président du Rassemblement National, ne trouve qu'une seule chose à faire, c'est venir me combattre moi, alors qu'il pourrait affronter les sortants de la majorité d'Emmanuel Macron ou les candidats de Jean-Luc Mélenchon et de ses alliés. Alors que moi, en tant que président de Reconquête, j'ai décidé unilatéralement de ne pas mettre de candidate contre Marine Le Pen, contre Éric Ciotti et contre Nicolas Dupont-Aignan.
Alors si la bataille fait rage sur cette circonscription entre le RN et Reconquête, que ce soit Éric Zemmour ou Jordan Bardella, ils sont favorables à ce que le candidat qui arrive en tête au soir du premier tour obtienne le soutien de l'autre. Pour l'instant, dans les sondages, c'est Éric Zemmour qui est devant le RN, mais il reste 2 semaines de campagne et elle s'annonce intense ici dans la 4e circonscription du Var.
Victor Chabert en direct du Var pour Europe 1. Tous les ministres tiennent maintenant leur feuille de route. Des mains d'Elisabeth Borne, la première ministre leur a fixé 3 urgences, pouvoir d'achat, santé et climat, assorties de 3 mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat. Marine Le Pen faisait aujourd'hui campagne dans son fief d'Hénin-Beaumont. L'ex-candidate RN à la présidentielle relance sa demande d'une taxation exceptionnelle des pétroliers pour soutenir le pouvoir d'achat. Et chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, lui, veut démanteler le présidentialisme et mettre fin à l'exercice solitaire du pouvoir d'un seul homme.
19h07 sur Europe 1, la compagnie EasyJet, Alexandre, a dû annuler 200 vols en raison de problèmes informatiques.
Et pour tous les passagers concernés, ça s'appelle une belle poisse. En plein week-end de l'Ascension, des vols annulés à la toute dernière minute, des voyageurs piégés à l'aéroport. Un soulagement au moins pour ces naufragés du ciel. EasyJet a finalement accepté de les indemniser, Carole Ferry.
Oui, la décision était loin d'être spontanée. La compagnie a d'abord refusé les demandes d'indemnisation, arguant que la défaillance des systèmes informatiques était en dehors de son contrôle et donc considérée comme une circonstance extraordinaire, car c'est bien une panne du système informatique qui a entraîné l'annulation des vols à Paris-Charles de Gaulle, Lyon, Toulouse ou encore Nice. Mais EasyJet est finalement revenu sur sa décision et a accepté de dédommager les voyageurs lésés. Des voyageurs qui ont appris au dernier moment qu'ils n'auraient pas de vol et sans aucune solution de remplacement. Certains ont donc choisi de s'offrir un nouveau billet sur une autre compagnie pour ne pas gâcher leur week-end. D'autres ont décidé de rentrer chez eux. Et ils sont un certain nombre à avoir exprimé leur colère sur Twitter, dénonçant par exemple la nuit passée dehors à l'aéroport de Lanzarote. EasyJet qui a déjà annulé des vols récemment, faute de personnel.
Carole Ferry.
Une scène rarissime maintenant, ça se passe en Russie. Des élus communistes appellent tout simplement à arrêter l'invasion de l'Ukraine.
Oui, il faut du courage à ces élus d'une assemblée de l'extrême-orient russe. C'est la première fois en Russie que des élus communistes se dressent contre la guerre, alors que leur parti soutient justement l'assaut lancé par Vladimir Poutine. L'un d'entre eux a pris la parole, c'était en pleine assemblée générale, diffusée en direct sur YouTube, Guillaume Dominguez.
Oui, on y voit Léonid Vassiukevitch, membre du Parti communiste russe, demander la parole en plein hémicycle. Il prétend alors vouloir revenir sur des décisions prises plus tôt dans la semaine.
Il y a quelques jours, l'Assemblée a adopté une série de mesures de soutien aux familles des soldats morts pendant l'opération militaire. Nous comprenons que si notre pays ne cesse pas l'opération de guerre, il y aura de plus en plus d'orphelins.
À l'annonce du mot « guerre », le gouverneur de la région tente de censurer l'élu et ordonne de couper son micro. Léonid Vassiukevitch se met alors debout et s'adresse directement au gouvernement fédéral pour demander la fin de l'offensive en Ukraine.
Au cours de l'opération militaire, des gens finissent invalides. Ce sont des jeunes gens qui pourraient apporter beaucoup à notre pays. Nous exigeons un retrait immédiat des troupes russes.
Une déclaration soutenue par quelques applaudissements, mais immédiatement sanctionnée. L'élu est privé de son droit de vote. Le chef du groupe communiste à l'Assemblée a promis des mesures de représailles extrêmement fermes. En Russie, toute personne reconnue coupable d'avoir, je cite, « discrédité l'armée russe » encourt une peine allant jusqu'à 15 ans de prison ferme.
Et Guillaume Dominguez, les forces russes intensifient encore les combats ce vendredi dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes affirment avoir pris le contrôle de la ville stratégique de Liman.
On en vient à ce roman photo qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours maintenant. Cet orque, ce grand cétacé qui a été repéré dans la Seine entre Le Havre et Rouen.
Oui, une orque mâle, désormais très affaiblie. L'animal a été aperçu pour la première fois il y a 10 jours près du pont de Normandie. Il est suivi de près par l'Office de la biodiversité. Alexandre Gagné est membre du groupe de recherche sur les cétacés et il y a urgence, estime-t-il, pour lui porter secours.
Il est à craindre que maintenant elle ne sait plus du tout s'en sortir. L'animal n'est pas moribond, mais il est en grande difficulté. Et ces animaux sont protégés dans l'espace français. C'est tout à fait logique que nous lui portions assistance. Nous procédons généralement avec un petit bateau à moteur. On s'approche tout doucement après avoir observé l'animal pendant une heure à distance, voir quel était son comportement de base. Vous imaginez bien les précautions pour ne pas faire du bruit avec le bateau, un bruit qui effrayerait. Eh bien, peu à peu, on incite l'animal à se diriger dans une direction précise. Alors, le cas est compliqué dans la Seine parce qu'on a un trafic fluvial, je pense, avec des péniches assez fréquentes qui font beaucoup de bruit. Donc, ça va prendre normalement des jours. On est dans un cas très compliqué.
Alexandre Gagné du groupe de recherche sur les cétacés avec Marion Gauthier.
On passe aux dernières nouvelles de Roland-Garros.
Roland-Garros 2022. L'événement tennis est sur Europe 1.
Cédric Chasseur, en direct de la Porte d'Auteuil. On commence avec Diane Paris qui s'accroche, Cédric, ce soir.
Elle a tenté de s'accrocher,
c'est
mais
fini.
Ça vient de ça s'est terminé à l'instant sur une 39e faute directe de Diane Paris. La Française est éliminée au troisième tour, battue par l'Américaine Sloane Stephens en deux petits sets, 6-2, 6-3. Elle a tenté de résister dans ce deuxième set qui a été interrompu quelques minutes après un malaise d'un spectateur, alors qu'il y avait 5 jeux à 1 pour Sloane Stephens et 40 à sur le service de la Française. Et la Française a enchaîné derrière au retour du jeu. Elle a enchaîné avec une, en remportant son jeu de service, en reprenant le service une première fois de Sloane Stephens, mais la Française n'a pu conserver le sien juste derrière. Et donc elle s'incline en un peu plus d'une heure 40 de jeu au troisième tour. C'était la seule Française aujourd'hui à Roland-Garros sur le court central.
Merci Cédric Chasseur, en direct de la Porte d'Auteuil.
Un rendez-vous à ne pas manquer en football maintenant. Olivier Giroud sort du silence et il sort du silence sur Europe 1.
Interview exclusive ce soir à partir de 20h dans Europe 1 Sport. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus vient d'être sacré champion d'Italie avec le Milan AC. Or, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. À plus de 35 ans, on pourrait le croire résigné. Mais Olivier Giroud n'a pas dit son dernier mot.
Pourquoi est-ce que ça aurait changé en quelques semaines? Évidemment que je suis là à disposition de l'équipe de France. Je suis sélectionnable. Et c'est pas d'actualité de fermer quelconque porte. Donc, je suis là. On verra le futur, mais ouais, en quelque sorte, vous m'avez un peu porté chance. Même si je suis pas superstitieux, mais sur le moment. C'était cool de revenir après en équipe de France et de pouvoir aussi me rapprocher du record de Thierry Henry.
Olivier Giroud avec Jacques Vendroux. Interview complète à retrouver ce soir dès 20h dans Europe 1 Sport.
Et ben voilà, on porte chance, tout arrive. Merci beaucoup Alexandre Lemaire pour votre journal. On passe à la météo, nuageux au nord et du plein soleil ailleurs, Valérie Darmon.
Et oui, un petit peu comme aujourd'hui, des Hauts-de-France et la Haute-Normandie, au bassin parisien jusqu'au Grand Est, le ciel qui sera partagé entre nuages et éclaircies, mais excepté quelques petites averses tout de même près des frontières du nord, la journée sera très très agréable avec des températures un petit peu fraîches. À vos thermomètres, attendez-vous à des valeurs entre 16 et 21 de la Manche au Grand Est et 20 à 25 ailleurs sur la moitié nord. Ce sera le cas en région parisienne. Sur le reste de la France, le temps qui est lumineux dès le lever du soleil, malgré un ciel un petit peu voilé en matinée par des nuages bas ou des brouillards. Mais ces derniers vont vite laisser la place au soleil et l'après-midi, c'est donc un soleil radieux qui va s'installer. Sur les Alpes-Maritimes et la Corse, des averses parfois orageuses se déclenchent aussi. La tramontane souffle toujours jusqu'à 70 km/h en pointe. Le Mistral se renforce jusqu'à 90 et les maximales vont donc aussi entre 22 et 27 au sud et jusqu'à 33 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Valérie Darmon. Et le soleil est encore là sur le cours Philippe Châtrier, sur l'ensemble des cours de Roland-Garros, où il y aura d'ailleurs des night sessions ce soir que l'on suivra sans doute dans l'émission sport juste après notre émission à nous, puisque dans un instant nous recevons le porte-parole du RN Laurent Jacobelli, qui d'ailleurs est en lice aussi pour les législatives. On en parle avec lui, c'est dans un petit instant. Restez sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Europe Soir Weekend en direct de Roland-Garros, Europe 1 Radio officielle. Nous sommes là, installés face au cours Philippe Châtrier, où les matchs, en tout cas pour la journée, viennent de se terminer. Et je suis avec Laurent Jacobelli. Bonsoir.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Porte-parole du Rassemblement National. Vous êtes également candidat dans la 8e circonscription de Moselle. Alors pour des raisons qui incombent à l'ARCOM, je cite vos concurrents. Sébastien André pour Reconquête, Brahim Amouche pour Ensemble, le Modem, qui est le candidat sortant, Annick Jolivet pour Lutte Ouvrière, Céline Léger pour NUP, la France Insoumise, Raphaël Rosa pour Les Républicains, Anne-Catherine Lévesque pour le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique et Sharia Oum pour le Parti Animaliste. Vous êtes Laurent Jacobelli, nous sommes dans l'enceinte, je le disais, de Roland-Garros. Le tennis, c'est comme la politique, on se renvoie la balle?
En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, c'est du sport, ça c'est sûr. La politique aussi.
Hein. Ça, vous le confirmez.
Oh, oui,
ça peut être intense.
Et comme le tennis, ça se gagne sur le terrain.
Oui, ah, c'est pour parfois ça. En 5-7, c'est long.
Ah, parfois, c'est compliqué. Parfois, effectivement, on ne sait pas toujours qui est le vainqueur. Mais un match mérite toujours d'être joué. C'est pour ça que pour les élections législatives, il faut aller voter. Parce que pour le coup, la balle de match, ce sont les électeurs qui la détiennent par leur bulletin de vote. Rien n'est joué à l'avance.
Il en a été question dans le journal. Effectivement, on a vu un match assez serré dans le Var, entre Jordan Bardella et Éric Zemmour. C'est normal ce match-là ou ça vous déplaît?
Mais d'abord, je crois que la visite de Jordan Bardella n'est pas liée à un match. Jordan va soutenir un certain nombre de candidats à travers toute la France. Il est venu me soutenir en Moselle. Il a été soutenir des candidats dans l'Aube, dans pas mal de départements de France. Il va soutenir Philippe Letiot, qui est un très bon candidat dans le Var. C'est tout à fait naturel. Alors j'entendais dans votre édition que M. Zemmour le prenait personnellement. La vie politique de la France et du monde ne tourne pas autour d'Éric Zemmour seulement. On peut faire des choses.
Vous n'allez pas nous reprocher quand même de diffuser Éric Zemmour?
Pas du du tout. Je pense à lui, qui croit que tout ce que l'on fait est lié à sa personne. Je pense qu'il y a...
Mais quand il dit qu'il devrait y avoir une entente entre le RN et Reconquête...
Écoutez, on a l'exemple de ce qu'une entente contre nature signifie. On le voit avec NUPES, où on associe des gens de gauche qui ont des valeurs républicaines et laïques, avec des gens qui veulent retirer leurs armes aux policiers, avec d'autres qui veulent interdire certaines réunions aux blancs, et certains qui trouvent que le burkini est l'avenir de la femme.
Donc vous dites c'est impossible, ça c'est
honnêtement,
impossible.
Honnêtement, faire ce genre d'amalgame politique, ça ne sert à rien si ce n'est à détourner les électeurs des urnes.
Nous, mais c'est à ce point-là, entre Reconquête et le Rassemblement National.
Ce que je veux dire, mais nous n'avons pas que des points d'accord avec Reconquête. Par exemple, sur la retraite, nous sommes pour la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, avant 20 ans. Monsieur Zemmour est pour une retraite à, selon les époques, hein, 65 ou 66 ans. Il est en cela plus macronien que nous. Pourquoi faire une alliance? Et puis soyons sérieux, Pierre de Villeneau. On ne peut pas dire le matin que Marine Le Pen doit partir de la vie politique. On ne peut pas dire le matin que le Rassemblement National est une vieille machine poussive et l'après-midi réclamer ses voix. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérent. La politique,
même
c'est
au second tour contre un candidat, justement NUPES, puisque vous avez cité d'une certaine manière le wokisme et l'indigénisme.
Dans le cas, allez, plus probable, soyons honnêtes, où un candidat Reconquête est au second tour qualifié devant un candidat Rassemblement National, si ce candidat est un candidat de valeur, il serait logique effectivement que le candidat RN mette de côté. À l'inverse aussi, d'ailleurs, nous espérons que les candidats Reconquête qui ne seront pas au second tour soutiendront nos candidats. Mais tout ça, ce sont des hypothèses d'école pour l'instant. Mais vous voyez, c'est bien ça qui est le problème.
Non, mais je note quand même votre logique, pour reprendre votre mot.
Et écoutez, aujourd'hui, honnêtement, si on est dans cette situation, c'est parce qu'il n'y a pas la proportionnelle pour élire les députés. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans notre
système. Mais ça, c'est pas un vieux chiffon qu'on agite à chaque fois,
la proportionnelle. J'espère que ce n'est pas un chiffon, la proportionnelle. C'est au contraire quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que chaque mouvement politique soit représenté en proportion de l'intérêt et du vote des
électeurs. Mais depuis le temps qu'on le dit, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait?
Vous avez raison. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse?
Emmanuel Macron et bien d'autres avant. À chaque fois, ce sont justement quand ils sont dans l'opposition, ils disent ben voilà, il faudrait qu'on fasse la proportionnelle. Une fois ces mêmes équipes arrivées au pouvoir, ils ne le font pas.
Ben peut-être parce qu'ils gouvernent pour eux-mêmes et par intérêt plutôt que par l'intérêt national. En tout cas, aujourd'hui, on le voit, beaucoup de Français hésitent à aller voter. Et c'est dommage pour notre démocratie. Ils hésitent pourquoi? Parce qu'ils se disent peut-être que si je vais voter, ma voix ne va pas compter. Eh bien, il faut régler ce problème. Il faut mettre aujourd'hui la proportionnelle. Je pense que c'est nécessaire et vital pour notre système.
On a beaucoup parlé du gouvernement. On a beaucoup mis en avant Elisabeth Borne, qui d'ailleurs a été la seule à prendre la parole ce matin, alors que tous les ministres étaient réunis à Matignon. On voit peu Emmanuel Macron. Alors certains disent, vous comprenez, il est à Brégançon. Marine Le Pen, certes, a pris la parole ce matin à Hénin-Beaumont, puisqu'elle était en campagne, mais on a l'impression que les tenanciers de la présidentielle du second tour, si j'ose m'exprimer ainsi, ont disparu. Qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord, je peux vous rassurer, Marine Le Pen va très bien. Elle n'a pas disparu. Elle a fait beaucoup d'interviews cette semaine. Elle fait campagne pour elle-même et pour les candidats Rassemblement National sur le terrain. Non, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est très présente dans la campagne.
Et le président?
Pour le coup, semble être un petit peu en retrait, parce que je pense qu'il a fait un ouf de soulagement en étant réélu et qu'il se dit maintenant que pour ce troisième tour, il va essayer d'éviter les balles. Donc il
ça
envoie...
fait ça le troisième tour comme Mélenchon.
Oui, bah oui, parce que c'est logique. Hein. On sort logique. De la présidentielle et c'est la dernière possibilité d'envoyer une opposition à Emmanuel Macron. Après, on est parti pour de longues années. Il y aura bien les européennes avant, mais si là on ne montre pas qu'il y a une opposition forte à Emmanuel Macron, eh bien on est parti pour 5 ans de macronisme.
Mais Laurent Jacobelli, enfin je veux dire, vous le savez. Aussi bien que moi, il y a deux tours à une présidentielle, il n'y en a pas trois.
Non, il y a deux tours, mais comme aujourd'hui le quinquennat est lié au mandat législatif, le seul moyen.
À cause de l'inversion du calendrier.
À cause de l'inversion du calendrier, le moyen que nous avons, nous, opposition, de montrer que nous sommes présents, eh bien, c'est d'être.
Donc vous appelez ça un troisième tour.
Nous appelons ça un troisième tour, et il est vital, lui aussi, et crucial, parce que sinon, c'est les pleins pouvoirs pour le président de la République, on sait ce que ça donne. C'est la casse sociale, c'est la retraite à 65 ans, c'est l'immigration massive, c'est l'insécurité et la perte de l'autorité de l'État. Et ça, je crois que les Français ne le veulent pas. Moi, je pense très sincèrement que les Français se sont réveillés au lendemain du second tour avec la gueule de bois, qu'ils ont compris que là, il y avait une chance unique d'envoyer une opposition solide à l'Assemblée et qu'ils vont le faire.
Quand vous entendez Elisabeth Borne, la Première ministre, donner ses priorités avec des mots d'ordre, efficacité, rapidité, résultat, qu'est-ce que vous dites ?
Écoutez, oui, il y a malheureusement un risque qu'elle le fasse avec efficacité et rapidité, la retraite à 65 ans, la casse de l'indemnité chômage. Tout cela est malheureusement possible. Elisabeth Borne, vous savez, c'est pas une nouveauté, contrairement à ce qu'on nous avait promis. C'est la continuité. Elle était là lors du quinquennat précédent. Elle a appliqué avec un zèle assez remarquable les demandes d'Emmanuel Macron. Elle a été sévère, dure, sans pitié. On l'a vu avec les infirmières auxquelles elle a demandé de rentrer chez elle si elle n'était pas vaccinée, sans paye. 15 000 infirmières ont été touchées par cette mesure. Elle a raboté les indemnités chômage. Je pense que tous ceux qui attendent un renouveau du macronisme ont été déçus et ont vu la dure réalité. Madame Borne, c'est du macronisme chimiquement pur, c'est-à-dire chimiquement dur et asocial.
On continue de parler avec Laurent Jacobelli dans une petite poignée de minutes, non pas de secondes, mais de minutes. Et on revient dans un instant ici même à Roland-Garros où le soleil non pas se couche, mais il commence à se faire un petit peu faiblard sur le court. Philippe Châtrier, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Toujours ici en direct de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. On parlait à l'instant, Laurent Jacobelli, de la retraite. Pourquoi est-ce que... Il y a une telle guerre, j'allais dire, entre les différentes formations politiques, 60 ans, 62 ans, 65 ans. J'ai l'impression que ce sont des slogans marketing. Il y a quand même avant tout une question d'annuité. C'est à quel moment je commence à travailler, à quel moment j'arrête de travailler parce que j'ai travaillé tant d'années.
Oui, il y a plusieurs questions dans la question des retraites. Vous avez raison, il y a le nombre d'annuités. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement aujourd'hui veut rallonger ce nombre d'annuités. On a cru comprendre qu'on se dirigeait vers 45 annuités pour un départ en retraite possible à partir de 65 ans. Et on ne le comprend pas. On ne le comprend pas parce qu'un Français sur deux aujourd'hui arrive à la retraite en étant soit malade ou invalide, soit chômeur.
Un Français sur deux.
Oui. Et donc, décaler l'âge de la retraite, c'est simplement rallonger le temps de chômage pour certains ou le temps de sécurité sociale pour d'autres. Et donc, on ne fait même pas d'économie. C'est une mesure purement idéologique pour casser un système auquel les Français tiennent tant. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas réglé le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est qu'il y a aujourd'hui en France 5,3 millions de chômeurs. Et que donc...
Comment vous faites votre calcul ? C'est-à-dire vous prenez toutes les catégories confondues.
C'est trop facile. Oui.
Mais vaut mieux pour les auditeurs, effectivement, parce qu'ils n'entendent pas deux sons de cloche.
ABC, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en stage d'une semaine et qui revient après dans les listes du chômage, nous le comptons, parce qu'il faut être réaliste pour régler les problèmes. Et donc, comme il y a autant de chômeurs, ça veut dire qu'il y a moins de cotisations sociales pour financer les retraites. Et donc, c'est ça qui crée pendant quelques années encore un déficit. Et puis, ça veut dire que nos retraités qui arrivent à la retraite seront encore plus chômeurs longtemps. Et donc, on ne règle pas le problème. C'est ce que n'a pas compris ou feint de pas comprendre Emmanuel Macron. Nous, nous lutterons contre cette réforme parce qu'elle est injuste et qu'elle est inutile. Chaque député Rassemblement National à l'Assemblée nationale sera un rempart contre cette mesure. Nous nous proposons autre chose. Si vous avez commencé à travailler très jeune, avant 20 ans, c'est 40 annuités, puisque vous avez raison, c'est ça qui compte, avec un départ possible à 60 ans et au-delà, c'est jusqu'à 42 annuités, 62 ans. Ça permet d'avoir un système plus juste, d'être à la retraite plus longtemps en bonne santé. C'est aussi ce que l'on doit à ceux qui ont travaillé toute leur vie pour aider à la croissance nationale. Et puis, c'est prendre en compte les phénomènes que je vous indiquais avant du chômage et de pénibilité. Vous savez, le comité d'orientation des retraites qui fait tout un tas de statistiques sur les retraites montre que, à peu près au milieu des années 2030, les caisses redeviendront à l'équilibre, même si on ne change pas le système. Donc,
Ça se fait ? C'est pas un tour de magie.
C'est lié à la démographie, c'est lié à plein de choses, mais même sans plein emploi. Or, Emmanuel Macron veut nous imposer une mesure de retraite à 65 ans.
Pas le seul.
Non, alors il y a une espèce de frénésie, comme si un bon gestionnaire voulait décaler l'âge de la retraite par principe.
Il y a des syndicats aussi, il y a le patronat qui dit que de toute façon.
Je comprends bien l'intérêt du patronat, je comprends moins l'intérêt des syndicats, mais honnêtement, c'est une chimère, c'est une espèce de licorne que se donnent certains hommes politiques et femmes politiques pour dire, vous voyez, nous on est des bons gestionnaires, on va gérer ça durement. Et bien les faits sont têtus, les faits montrent que c'est faux. Alors gérons la question des retraites, pas seulement avec la calculette, et d'ailleurs on a bien vu que c'était pas le cas, mais aussi avec le cœur. Vous savez, la politique c'est parfois faire des choix qui ne sont pas des choix purement financiers, qui sont des choix de société. Et bien avoir une société...
On a perdu ça de vue.
Alors je le pense, oui.
Oh bah avec... Certains observateurs disent qu'on parle beaucoup d'économie, qu'on parle moins des questions sociétales, par exemple.
La Startup Nation d'Emmanuel Macron, c'est combien tu rapportes et combien tu coûtes. Et c'est le seul critère. Donc c'est pour ça qu'il a délaissé les étudiants, parce que les étudiants, c'est un investissement, mais ce n'est pas une rente immédiate. Et qu'il veut abandonner les retraités, parce que les retraités, pour lui, c'est une perte. Il n'aime finalement que les gens qui ont un métier, qui rapportent en plus et qui vivent dans le centre-ville. Cela rapporte et coûte peu cher. Mais une société, ce n'est pas ça. Une société, c'est tous les âges. tous les sexes et tous les cas socio-professionnels, une société fraternelle. Nous, c'est ça que nous voulons et nous défendons avec le Rassemblement National.
Pas beaucoup de, j'allais dire, d'écho sur les différentes feuilles de route qu'a donné Elisabeth Borne ce matin à ses ministres. Il y a eu une fuite, comme ça, que Marine Le Pen, on l'a entendu, a commenté tout à l'heure dans la semaine politique sur cette possibilité d'enlever, de ne plus enlever les points de permis à ceux qui font 5 km/h ou moins d'excès de vitesse. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein ?
Deux choses. D'abord, j'ai l'impression que le Rassemblement national, finalement, a gagné la victoire du programme.
Oula.
On nous annonce un grand plan pouvoir d'achat. C'est ce que nous demandons depuis des mois et des mois. C'est ce que nous avons placé au cœur de la présidentielle. Et ben, vous voyez, finalement, c'est une forme de victoire. Et aujourd'hui, on remet en cause, d'une certaine manière, le permis à points que Marine Le Pen remet en cause depuis l'origine du permis à points. Alors, je dis à vos auditeurs, ne soyez pas dupes. Hein. Vous aurez remarqué qu'il y a des élections législatives dans 3 semaines et que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Emmanuel Macron et Madame Borne vous promettent beaucoup de choses parce qu'ils ont compris qu'il y avait une grogne, et notamment la grogne des automobilistes qui en ont ras-le-bol de se faire plumer avec le prix de l'essence dont, je le rappelle, 2/3 du prix est constitué de taxes. Alors c'est une petite promesse, un petit bonbon promis pour en échange d'un vote. Je crois que les Français ne sont pas dupes, surtout les automobilistes qui ont bien compris que depuis 5 ans ils avaient été montrés comme une cible, comme étant d'éventuels pollueurs, presque des criminels, et que toutes les taxes sont bonnes pour les punir. Je pense qu'il faut là-dessus un changement radical et laisser vivre tranquille les automobilistes.
Il y a un petit phénomène qui vient de se produire. Il y a Raphaël Nadal qui vient de passer devant le studio d'Europe 1. Alors évidemment, on a cru à un mouvement de foule. Moi, j'ai même cru que...
C'était pour vous, Pierre de Villeneuve.
Non, moi, j'ai cru que c'était pour vous, Laurent Jacobelli, parce qu'effectivement, vous êtes porte-parole du RN et la politique, ça compte aujourd'hui dans notre pays. Vous voyez, là, c'était, j'allais dire, une scène de théâtre de votre ville. Est-ce que... finalement, les électeurs dont vous parliez, et vous insistiez sur la faisabilité et l'importance pour les électeurs d'aller voter à ces élections législatives, est-ce que finalement, pour les Français, la politique, c'est pas beaucoup de théâtre ? Et quand on se tourne vers un autre théâtre, le vrai théâtre, celui de nos auteurs et pas ceux des auteurs politiques ?
Je crois malheureusement que le spectacle de certains hommes politiques doit créer le doute chez les électeurs. Il faut être clair, quand on voit le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale critiquer Emmanuel Macron pour... dès qu'Emmanuel Macron fait un gouvernement devenir son ministre, on se demande si tout cela est bien sincère et bien honnête. Quand on voit un certain nombre de caciques, des députés républicains qui se présentent maintenant sous l'étiquette macroniste, ou de gens de gauche qui acceptent une politique, disons-le, antisociale pour un ministère, effectivement, ça crée le doute. Mais il y a encore des gens de conviction. Et j'ai la faiblesse de penser qu'au Rassemblement national, nos 567 candidats qui, croyez-moi, battent le terrain, sont sincères et portent de vraies valeurs. La valeur de la nation, la valeur de la fraternité, la valeur de la solidarité entre les Français, et puis cet espoir aussi, cet espoir que tout n'est pas fichu, qu'on n'est pas condamné à avoir 2000 agressions par jour, qu'on n'est pas condamné à être matraqué fiscalement, qu'on n'est pas condamné au chômage et qu'on n'est pas condamné à la perte d'identité.
Vous avez mis sur la table le sujet d'Amien Abad. Pourquoi ? Parce que, on a dit tout à l'heure dans la semaine politique avec les éditorialistes que c'était un sujet parasitant, la campagne. Vous avez vous-même parlé de Damien Abad. Qu'est-ce qu'il y a de si important ou pas important, justement ?
J'ai parlé du point de vue purement politique. Le reste,
pourquoi ?
Je n'ai pas envie de l'aborder parce que c'est symptomatique. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui devait être... Selon la théorie et selon le modèle républicain, la force d'opposition à Emmanuel Macron pendant les 5 dernières années, eh bien cet homme-là devient ministre de l'homme qui
déclare... Mais c'est un exemple parmi d'autres.
C'est, bien sûr que c'est un exemple parmi d'autres, mais très symbolique. Mais il y en a plein d'autres. Il y a eu M. Le Maire avant lui, il y a eu M. Darmanin, vous avez raison, ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, moi j'ai une pensée pour les électeurs sincères des Républicains, ceux qui croient en l'ordre, en la sécurité, en la nation. Ceux-là, j'espère qu'ils ont compris que leur cadre ne les soutiendrait pas. Et moi je les appelle, très solennellement à voter pour les candidats.
Mais on a l'impression que vous critiquez, alors qu'en réalité, est-ce que c'est pas justement un nouveau modèle politique qui se crée, avec d'un côté une force d'opposition qui est une force radicale, puisque, que vous le vouliez ou non, les observateurs parlent du RN, de Reconquête et de la NUP comme une force radicale. Et puis, finalement, Emmanuel Macron, il a réussi son pari de concilier la gauche et la droite quand c'est une gauche sociodémocrate et une droite démocrate.
Non, je crois pas. Je crois malheureusement qu'il a pris le pire de la gauche et le pire de la droite. Il a pris le pire de la gauche, c'est-à-dire le goût de la taxe, le goût du moindre effort. Il a pris le pire de la droite.
Le goût de la taxe. Qu'est-ce que vous appelez le goût de la taxe ?
Oh bah parce qu'il y a eu des taxes. Hein, Emmanuel Macron, c'est 2 taxes supplémentaires sur l'essence, par exemple. Et on sait que la gauche est très encline à taxer et à imposer.
Le prix de l'essence, pardonnez-moi, je suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, mais enfin vous savez d'où ça vient. C'est le prix du brut, c'est pas forcément la taxe.
60%
du prix. Non mais bien sûr, mais ça c'est depuis toujours.
C'est de la taxe. Et donc,
toujours,
il y a eu deux augmentations, de la taxe. Bah, pourtant, je vais le dire quand même.
Bah, vous le dites, mais enfin, les gens le savent, donc c'est ridicule.
Deux augmentations de la taxe par Emmanuel Macron, une augmentation aussi des taxes sur le diesel. Non, il s'est bien lâché pendant son quinquennat. Et le pire de la droite, bah, on le voit avec la retraite à 65 ans. En fait, Emmanuel Macron, c'est une caricature de la politique, une caricature de la droite et une caricature de la gauche. Pourtant...
Caricature qui fonctionne et qui a été réélue.
Qui a été réélu, c'est vrai. Vous avez raison de le dire, mais à laquelle il faut une vraie opposition, parce que si c'est une
il faut. Pourquoi il faut?
Parce qu'on ne peut pas vivre avec un parti unique. On peut pas vivre
pourquoi
avec un
il faut
parti
pas
unique.
Pourquoi on peut pas vivre parce que pourquoi parce on peut pas démocratie. Vivre avec un parti unique qui arrive parce à concilier tout le monde, Laurent Jacobelli.
Parce que c'est la démocratie.
Ah bon, c'est la démocratie de ne pas vivre avec un parti qui arrive à réconcilier à la fois la gauche et la droite.
Et je vais
prendre le contre-pied, peut-être le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite.
Moi, je ne le crois pas. Je crois que le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, si on devait aller là, c'est nous. Parce que le meilleur de la gauche, c'est la fraternité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes la seule force politique à la représenter. Et le meilleur de la droite, c'est de vouloir une société prospère, mais qui tient aussi à l'évolution du bien matériel des individus. Moi, je suis gaulliste social. Et le général de Gaulle avait réussi à faire que l'expansion économique de la France corresponde à une amélioration du quotidien des Français.
Dernier sujet, on a beaucoup encore parlé du burkini. C'est grave, docteur ?
Oui, c'est grave. C'est grave parce que c'est un symbole. C'est grave parce que c'est une reculade supplémentaire. C'est grave parce qu'aujourd'hui, des élus sont prêts à vendre leur âme pour quelques voix communautaristes. Et ce qu'a fait Éric Piolle, le maire de Grenoble, est, je crois, tout simplement anti-républicain et honteux. Eh bien, puisque aujourd'hui, il y a une volonté d'un islam radical, d'un islam politique d'imposer ses règles en France, il faut rappeler que quand on vient en France, on s'adapte à la France.
C'est l'assimilation.
C'est l'assimilation, mais ce n'est jamais à la France de s'adapter aux nouveaux arrivants. Eh bien, s'il faut une loi pour ça, nous serons député Rassemblement National, porteur de cette loi anti-Burkini, pour bien montrer qu'en France, nous avons des valeurs et que ces valeurs, nous ne voulons pas y renoncer.
Merci beaucoup Laurent Jacobelli, merci d'avoir été l'invité politique de ces débats d'Europe Soir. Le soleil brille encore un petit peu sur le cours central et sur cette allée centrale de Roland-Garros. Et dans un instant, on retrouve Service Pioline avec notre consultant Cédric Pioline. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.